Trop nombreux sont ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Nous avons une immense dette de reconnaissance à leur égard. Nous ne devons jamais oublier leur sacrifice et les terribles conséquences de la guerre. On ne doit jamais tenir la liberté pour acquise.
Non, on ne doit pas la tenir pour acquise. Il faut toujours se rappeler que des milliers d'entre eux ont donné leur vie pour qu'on ait la liberté aujourd'hui. La majorité était des hommes, la vaste majorité était des hommes, mais il y avait des femmes aussi qui ont donné leur vie, qui ont fait l'ultime sacrifice. Et on sait que de plus en plus, les femmes prennent leur place dans les forces armées et s'engagent dans des conflits comme celui de l'Afghanistan. Hélène Le Saleur a été officière dans l'armée canadienne. Elle a servi pendant 26 ans, notamment en Afghanistan. Bonjour, Madame Le Saleur.
Bonjour.
Vous étiez capitaine, hein, c'est bien ça?
Oui.
Bon, voilà. Alors, c'est Émilie Dubreuil, la journaliste Émilie Dubreuil, qui vous rend un très, très bel hommage. Et je prends la suite des choses. Parce que pour vous, l'armée, c'était une véritable vocation. Vous l'aviez tatouée sur le cœur. Malheureusement, ça s'est mal terminé.
Oui, exactement.
Racontez-nous un petit peu à quel point c'était important pour vous, cette carrière militaire, à quel point ça c'était votre vie.
En fait, je pense que lorsqu'on joint les Forces armées canadiennes, je ne pense pas qu'on a nécessairement l'intention de joindre une vocation. Je pense que c'est plus une expérience, un défi qu'on s'en va chercher. Mm-hmm. Puis on comprend pas, hein, je pense, à ce moment-là, l'impact de ce qu'on est en train d'intégrer en termes de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles identités. Puis c'est là, je pense, qu'il y a un choix où éventuellement quelques personnes vont dire, ben finalement, c'est pas pour moi, ou d'autres personnes vont embrasser ça comme quelque chose qui devient part entière dans leur vie. Puis ça a été mon cas pour moi. Donc, à 17 ans, quand j'ai joint le régiment de Maisonneuve à Montréal, moi, je me destinais à faire du théâtre à l'école. Je faisais que des arts. Puis, soudainement, lorsque j'ai mis mon uniforme, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était beaucoup plus grand que moi. Mm-hmm. Puis, ça me faisait du bien de sentir que je pouvais servir à un niveau qui était au-delà de ma personne.
Vous vous sentiez utile?
Oui, vraiment.
Utile pour les autres?
Bien, en fait, c'est un... Certaines personnes vont dire qu'on joint une grande famille, puis c'est toujours quelque chose que j'ai utilisé aussi comme, je dirais, comme comparaison. C'est pas tant l'organisation qui devient notre famille, mais les frères d'armes, l'espèce de, je dirais, de confrérie qui s'installe, mm-hmm. qui devient partie intégrante de qu'est-ce qu'on fait dans le militaire. Parce que lorsqu'on y pense, au final, s'entraîner en tant que soldat, c'est à bout ultime, de défendre la personne qui est devant toi, derrière toi, sur chaque côté, puis pour défendre quelque chose qui est aussi qu'on laisse à la maison, qui est un pays, qui on essaie de défendre la sécurité pour les gens qu'on aime. Donc, mm-hmm. c'est vraiment quelque chose qui dépasse, je dirais, l'individu en tant que tel.
Alors, racontez-nous ce que vous avez fait en Afghanistan, parce que c'est très important, ça détermine la suite.
Bien, en fait... lorsque l'Afghanistan s'est pointé au rendez-vous, il n'était pas question pour moi de ne pas participer à cette mission-là. Je pense que dans l'ensemble de ma carrière, c'est la première fois, malgré que j'avais déjà fait d'autres missions, de dire, ben, je m'en vais faire pour une fois un vrai rôle de soldat dans une zone de combat. Parce que ce n'était pas les conflits auxquels on était habitués nécessairement. Donc, pour moi, partir, ben, c'était significatif de... Peut-être que je reviendrai pas. Donc, de prendre le temps avec mes proches, de leur dire que je les aime, de faire mes adieux aussi, parce mmh. que je voulais partir le cœur serein en disant si quelque chose m'arrive pendant que je fais la chose que j'aime le plus, bien, je veux que mes parents, ma famille, mes enfants, mon enfant à l'époque, pardon, puissent être serein avec l'idée que je partais faire ce que j'aimais le plus faire. Mmh. Donc, ça a été d'emblée un départ vers quelque chose qui, pour moi, m'animait énormément de faire mon vrai rôle pour lequel je m'étais entraînée toute ma carrière.
Et là-bas, vous avez vraiment connu la guerre là, dans toute son horreur, là.
Bien, en fait, oui, parce que lorsqu'on arrive là-bas, on a beau avoir été formé, entraîné, avoir fait beaucoup de simulations. Lorsque ça frappe pour vrai, où là, on a des décès, on a des gens blessés, c'est une autre réalité là, à laquelle on s'expose. Puis c'est là qu'on se rend compte, est-ce qu'on est capable de soutenir ça ou est-ce qu'on ne l'est pas? Donc, d'emblée, on se rend compte qu'on est entraîné d'une certaine manière à être capable de survivre à ça. Parce que si on n'avait pas été si bien entraîné de fonctionner, sans nécessairement dire comme une machine, mais je veux dire, au bout de la ligne, on ne peut pas laisser place à nos émotions parce que là, on devient plus fonctionnel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout ça de côté puis on continue à fonctionner dans un rythme qui est quasiment automatique, un instinct de survie qui prend place, puis on roule à 300 000 à l'heure de façon quotidienne. Puis ça a été ça. Donc, l'exposition à des scènes d'horreur, l'exposition à des... Je dirais à des choses, des fois, qui dépassent l'entendement. Même nous-mêmes, je parle, puis là, je dis nous-mêmes parce que je veux dire, je suis pas la seule à avoir vécu ces situations-là. Mmh. On est des centaines, voire des milliers qui ont vécu ces situations-là. Donc, le véhicule qui explose, comment est-ce qu'on réagit à ça?
Vous avez connu ça, là? C'est pas théorique, oui. Là?
Non, c'est pas
vous
théorique.
Vous avez vu des gens mourir, vous avez vu des enfants?
Oui, des enfants. En fait, j'avais des troupes sur le terrain parce que moi, je m'occupais dans le fond de toutes les troupes, on va dire paramédicales. Donc, les groupes qui avaient des médecins, des infirmières, des adjoints médecins, tout ça était dispersés partout au sein des équipes de combat. Puis mon rôle, ben, c'était en même temps d'aller m'assurer que tout le soutien qu'on offrait à ces équipes de combat-là était parfait. Donc, je me promenais souvent sur le terrain pour aller voir mes troupes parce qu'en même temps, en tant que leader, on ne veut pas leader à distance. On veut être là sur le terrain, prendre le pouls pour être certain qu'on offre le meilleur de nos capacités. Puis c'est à quelques reprises, lorsque j'allais voir mes troupes sur le terrain, où on recevait des Afghans, en fait, sur les camps pour pouvoir offrir des soins. Puis malheureusement, on a eu des enfants qui sont décédés dans ces instants-là. Donc, c'est sûr que c'est des visions où en même temps, on se dit, wow, on ne veut pas non plus minimiser le fait que ce ne sont pas des Canadiens, mais ça touche de voir que la guerre n'a pas d'âge. Hein. Les enfants vont mourir, les adultes vont mourir, les hommes, les femmes. Donc, c'est ça, c'est vraiment des visions, des images, des odeurs, des choses qui restent en nous par la suite.
Et pourquoi ça s'est mal terminé pour vous?
Bien, en fait, c'est sûr qu'au bout de ma mission, je sentais que ça allait vraiment pas bien déjà. L'accumulation de tout ça, du fait que moi-même, j'ai explosé dans mon véhicule et tout ça, psychologiquement, ça m'a rattrapée. Puis au retour, je le savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis ça a pris du temps avant que je puisse mettre des mots là-dessus, jusqu'à éventuellement où là, moi-même, j'ai craqué. Je suis allée chercher de l'aide, mais l'aide... rapidement, sans dire que je l'ai délaissé, mais j'ai eu un nouveau défi qui s'est présenté à moi, puis qui me permettait de quitter la région de Valcartier, où dans ma tête, je me disais, ben si je quitte Valcartier, je mets ça derrière moi, donc je vais être capable de me refaire. Puis là, j'ai été mutée à Ottawa pour travailler auprès de la gouverneure générale de l'époque, Michaëlle Jean. Puis finalement, ça a été tout à fait le contraire. Ça m'a rattrapée même à distance où je m'étais enfouie dans le travail. De toutes sortes de façons, j'essayais de m'auto-médicamenter pour pouvoir, je dirais, pallier à la souffrance. Mais c'est ça. Donc, éventuellement, ça a été le diagnostic reçu de syndrome de stress post-traumatique. Puis, ben malheureusement, dans le système militaire à l'époque, quand on recevait ce diagnostic-là, qui était nécessaire pour recevoir les services, mais qui en même temps était notre carte pour la porte de sortie.
Ah,
donc,
oui.
C'est là que ça a été très difficile parce que c'est...
Vous avez été obligé de quitter la carrière à cause de ce diagnostic?
Oui. Oui, il y a, je dirais, moi, quand je suis sortie, en fait, il y a 3 ans, presque, en fait, ça va faire 4 ans au mois d'avril. À l'époque, le diagnostic signifiait le bris de l'universalité de service. Donc, on n'était pas déployable. Donc, ça signifiait qu'on ne pouvait plus servir.
Et là,
aujourd'hui, ça l'a changé. Ils ont commencé à assouplir les politiques. Mais pour nous, à l'époque, c'était un automatisme. Puis, il n'y a pas de retour en arrière. Les personnes qui ont été libérées, même si on était en mesure de pouvoir encore servir dans des fonctions différentes, dans des capacités différentes, ça a été automatiquement, une libération sans nécessairement le désirer.
Et là, vous êtes tombé.
Oui.
Une dépression?
En fait, le syndrome de stress post-traumatique lui-même peut se transformer en dépression post-traumatique. Et c'est ce qui a été le cas pour moi, puis en fait pour plusieurs d'entre nous, parce que même lorsqu'on commence des traitements, puis même à l'époque, lorsque j'ai commencé des traitements en revenant de l'Afghanistan, c'est encore, sans dire peu connu, mais les gens n'étaient pas prêts à nous recevoir avec nos réalités. Donc, ça a été long avant de pouvoir arriver à me rétablir un petit peu.
Et le fait que vous étiez une femme n'aidait pas, parce que vous ne vouliez pas montrer votre faiblesse. Hein? C'est oui, ce que vous dites, en tout cas, à Émilie Dubreuil. Vous vouliez être aussi forte, sinon plus forte que les gars.
Bien, en fait, c'est parce que il y a eu beaucoup de tabous relatifs à ça, le fait d'être une femme, que d'emblée, on serait plus faible que les hommes, qu'on serait plus sensible que les hommes. Donc, tout ce discours-là nous a suivis tout le long de notre carrière. Puis c'est certain qu'au bout de la ligne, quand le motto, je dirais, au sein des Forces armées canadiennes, c'est que si on met un genou par terre, le sens figuré qu'on donnait à tout ça, si on met un genou par terre parce qu'on a besoin d'aide, bien, c'est qu'on devient une personne faible, qu'on n'est plus capable de faire notre travail. Donc, c'est certain, en tant que femme, ça me tentait encore moins de donner raison à cette façon de penser-là.
Et aujourd'hui, en terminant, comment vous allez? Est-ce que ça va un petit peu mieux?
Oui, je dirais que j'ai été très bien entourée. J'ai une famille qui m'aime beaucoup, qui m'a offert beaucoup de support, des amis incroyables. Puis surtout, je dirais, des professionnels de la santé qui ont réussi à trouver une façon de pouvoir m'aider. Puis ça, je dirais qu'aujourd'hui, on se rétablit. En fait, on ne guérit pas d'un syndrome post-traumatique, mais on se rétablit de ça. Je vais continuellement vivre avec cette vulnérabilité-là. Mais aujourd'hui, j'ai développé des outils qui vont m'aider à souffrir moins longtemps, moins souvent, puis de façon moins intense aussi.
En tout cas, je suis content que vous preniez la parole parce qu'on ne le fait jamais suffisamment. Puis là, vous apportez cette perspective féminine. Là. Puis moi, je trouve ça très important. Si on veut encourager nos filles, nos femmes à s'engager pour celles qui ont le goût de le faire, c'est pas parce qu'elles sont femmes c'est pas parce qu'elles sont femmes que ça devrait les empêcher ou les décourager d'y aller. Et je trouve que le témoignage que vous nous offrez aujourd'hui risque peut-être d'en encourager certaines à dire « ben il y a une place pour moi ». Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés avant moi, qui m'ont ouvert le chemin. Puis maintenant, ben, je vais suivre Hélène. merci beaucoup d'avoir pris la parole. C'est très apprécié que vous vous soyez déplacée en studio, Hélène Le Saleur. Donc, vétérane, parce que ce se dit, je le dis, vétérane des Forces canadiennes. Bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Bonne journée.
Dans un instant, le CHUM et le problème de stationnement au CHUM.